Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin sur France Culture, dans Chrétien d'Orient, je suis en compagnie de Manoël Pénicaud, anthropologue chargé de recherche au CNRS et spécialiste des relations interreligieuses. Et nous sommes ce matin ensemble pour évoquer la figure de Louis Massignon, un personnage que vous lisez et que vous suivez beaucoup, et vous nous proposez ce matin un récit biographique, d'une certaine manière, Louis Massignon, le catholique musulman. Alors cette expression vient du pape Pie XI, qui lui a été donnée, je crois, au cours d'une rencontre. Alors Louis Massignon est un professeur au Collège de France, a été professeur au Collège de France, un grand savant, militaire, aventurier, écrivain, un savant éclairé, comme on aurait pu le dire, au siècle passé, tant son œuvre et sa vie, surtout, sont d'une amplitude exceptionnelle. Manoël Pénicaud, bonjour.
Bonjour.
Alors, ce premier livre sur Louis Massignon est un livre important pour vous. Il comble un vide, il comble une absence peut-être.
Alors il y a eu de nombreux livres sur Louis Massignon édités depuis sa disparition en 1962, une biographie déjà en 1964, un petit ouvrage suivi surtout dans le début des années 90 d'une biographie importante, voire de référence, mais cela fait déjà plus de 25 ans et du coup cet ouvrage que je propose aujourd'hui renouvelle en fait les études massignoniennes parce qu'il est aussi nourri de nombreuses archives, de nouveaux documents qui étaient restés inconnu, non pas un vide, mais en tout cas il permet de faire redécouvrir cette figure au début du 21e siècle.
Alors votre ouvrage que je trouve très très bien fait, hein, Louis Massignon, le catholique musulman aux éditions Bayard qui vient juste de sortir, est un ouvrage illustré qui humanise d'une certaine manière, je me permets de vous le dire franchement, une pensée qui parfois est quand même assez est assez incompréhensible pour celui qui n'est pas habitué à cette manière de voir le rapport entre les religions et surtout des termes qui appartiennent parfois à l'ordre de la mystique, à l'histoire bien entendu, parce que c'est avant tout un grand savant qui a travaillé sur des penseurs de l'islam avant tout, et qui est redevenu chrétien, comme vous le dites si bien, dans le miroir de l'islam, dans le miroir de cette autre religion.
Oui, tout à fait. Là, c'est vraiment un choix aussi particulier que j'ai adopté. C'était de le style de Massignon est très abscon, très mystérieux, alambiqué souvent, et donc il est difficile à lire. Et donc tout le projet avec Bayard a été de traduire en fait un peu sa pensée dans un langage accessible à tous. Et en tant que je suis aussi attaché à l'iconographie, aux images, aux objets, ça c'est parce que j'ai une casquette de commissaire d'exposition, et du coup j'ai décidé de mettre en avant de nombreuses images, des photographies personnelles de la collection de Louis Massignon, beaucoup étant inédites et dormées dans sa famille, et ainsi que des objets personnels, c'est-à-dire qu'on va trouver des images de son Coran, des objets qui ornaient son bureau, des tableaux qui accompagnaient son quotidien, et qui permettent voilà de le découvrir sous un tour beaucoup plus humain, concret, parfois fragile aussi, et donc on voit qu'il s'attachait, le mystique était aussi attaché à des images pieuses, à des tas de choses comme ça. Et du coup, ces images ne sont pas seulement des illustrations, mais j'ai voulu qu'elles soient au contraire des portes d'entrée dans chaque chapitre. C'est-à-dire que chaque chapitre de cet ouvrage s'ouvre sur une image, une photographie, dans laquelle, que je décris, et qui ensuite invite le lecteur à découvrir une facette de ce personnage. Donc les images sont quelque part prioritaires et non pas dans un rôle secondaire, si vous voulez. Et ensuite, du coup, le texte prend le relais. Et je considère vraiment l'image comme une, ou l'iconographie comme une forme d'écriture aussi. C'est un peu l'enjeu de cette approche.
Alors, Louis Massignon est né à la fin du 19e siècle, en 1883. Il traverse une bonne partie du 20e siècle. Est-ce qu'il serait possible de nous résumer les grandes date de ce personnage? Comment le situer pour nos auditeurs?
Alors tout à fait, il naît d'un père artiste et un croyant et d'une mère fervente catholique. Lui-même perd la foi à la fin de l'adolescence, durant l'adolescence. Et d'ailleurs, il va rencontrer Huysmans, qui va avoir un rôle très important, l'écrivain catholique Huysmans et mystique. Mais Massignon, à cet âge-là, a 17 ans et ne croit plus en Dieu. Et c'est en allant, disons, en vivant l'expérience du voyage en Orient, de cette quête orientaliste, de l'altérité comme de lui-même, qu'il va voyager en Égypte, au Maghreb et aussi surtout en Irak. Et là, enfin en Mésopotamie à l'époque, et c'est là qu'il va vraiment être terrassé par une crise mystique en 1908 et qu'il va donc revenir, comme vous le disiez tout à l'heure, à la religion, disons, de sa mère, du maternel, disons, dans le miroir de l'islam. Disons que son rapprochement à l'islam va lui faire redécouvrir la foi, mais chrétienne, dans le miroir de l'islam. Après quoi, il va rencontrer aussi Charles de Foucault. Donc ça va être un autre mentor et un guide spirituel majeur chez lui. Foucault va même lui proposer de le suivre à Tamanrasset, au désert, de lui succéder. Le jeune Massignon va hésiter, il va finalement choisir de se consacrer aux études en fait, hein, d'islamologie, donc à sa thèse sur ce saint musulman, Hallaj. Mais il va devenir, après la mort de Foucault en 1916, il va devenir l'exécuteur testamentaire de Foucault. Et là, il va vraiment s'impliquer corps et âme dans la perpétuité et dans la reconnaissance de la vie de Foucault. D'ailleurs, il est à l'origine de la biographie de René Bazin, qui va lancer en fait la célébrité de l'ermite du Hogar. Et même c'est lui qui va déposer le procès de canonisation de Charles de Foucault, qui aboutira en 2004 à sa béatification. Il est aussi militaire parce qu'il est incorporé dans l'armée, à la fois dans l'état-major, mais aussi dans les tranchées du front d'Orient, de Thessalonique, de Macédoine. Il va aussi être un acteur de premier plan des accords Sykes-Picot, qui ont un effet, une importance capitale sur la fin de l'Empire ottoman, sur le partage de ce Moyen-Orient déchiré entre les Anglais et les Français principalement. Et là, il est aux premières loges, au même titre que le commandant Lawrence. On connaît tous Lawrence d'Arabie, etc. Mais souvent, on oublie que du côté français, il y avait Louis Massignon, qui était l'adjoint de François-Georges Picot pour les Français. Et voilà, donc et après, il entre au Collège de France. Il devient titulaire d'une chaire d'islamologie, spécialisée dans l'étude du soufisme, de la sociologie, de la sociographie musulmane. Donc là, il y a tout son volet scientifique qui est immense, et accompagné aussi de missions politiques, diplomatiques qu'il exerce à la fois à Damas, au Maroc, près du maréchal Lyautey. Voilà, donc il a vraiment une surface, une amplitude, comme vous avez dit, assez peu commune. Et il va côtoyer, il va rencontrer Gandhi, par exemple, Clémenceau, toute une série de personnages qui sont entrés dans l'histoire. Et lui est, disons, peu connu du grand public, il est bien connu des intellectuels, mais cette biographie vise aussi à le refaire connaître, aujourd'hui.
Alors vous avez évoqué Charles de Foucault, je crois que la dernière lettre que le père de Foucault a écrite de son vivant lui était adressée, hein, à ce jeune officier qui était sur le front de Macédoine. Donc il y a eu une tentation mystique, il y a eu une tentation du désert. Comment on peut expliquer ce changement de cap? Est-ce qu'il ne s'est pas vu véritablement en moine ermite d'une certaine manière?
Alors, après sa conversion radicale, hein, de 1908, il la qualifie d'ailleurs de coup de soleil de midi, ce qui est une très belle formule. Il fait feu de chasteté et il, comme beaucoup de convertis, il adopte une foi vraiment poussée à l'extrême, en fait. Et là, c'est là que Foucault est très touché par cette vocation, disons. Et évidemment, il a cette vocation érémitique, en fait, hein, plutôt de la vie dans le désert, dans la solitude aussi. Et Foucault, dès 1909, lui propose de le rejoindre. Il lui dit d'ailleurs, vous pourriez étudier les Touaregs avec moi et, en fait, en secret, quelque part, être ordonné et donc me succéder quand le temps viendrait. Et Louis Massignon est très tenté pendant plusieurs années pour cette vie-là, ce programme de vie. Mais en 1913, en fait, il va décider finalement sur les conseils de son directeur spirituel. À cette époque-là, Foucault est aussi considéré comme un moine, un prêtre girovague, un peu original, marginal, pas très considéré. Et donc Massignon va rester dans le siècle et va décider de se marier. et de s'engager vraiment dans l'étude, de continuer sa vocation universitaire, mais ce qui n'empêche pas d'être mystique avant tout.
Alors on a évoqué le savant, l'universitaire, le Collège de France, mais aussi l'homme de foi. Et là, c'est un aspect de sa personnalité qui est un peu moins connu. Et vous mentionnez un texte dans votre biographie qui est une confession, quelque chose qu'il aurait écrit à destination de son directeur spirituel. Les passages que vous citez sont très intéressants, sont bouleversants. Que pouvez-vous nous dire sur cette question ?
Alors effectivement, c'est plus qu'une confession, mais c'est une confession. Ce texte s'intitule « Note sur ma conversion », qui n'était pas destiné à être publié, qu'il a rédigé pour son directeur spirituel plus tard, à partir de notes, dans plusieurs parties, donc notamment en 1922. Et là, il se livre, j'allais dire à nu, hein, son cœur mis à nu, sur toute sa vie. Donc c'est l'un des seuls récits autobiographiques, mais qui est même d'un style extrêmement brut, sans concession pour lui-même. Alors c'est pas un récit de conversion qui vise la conversion des autres, parce que souvent c'est un style bien connu, enfin c'est un type de texte, les récits de conversion qui sont à but de conversion. Là ce n'est pas le cas. Et du coup ce texte circulait jusqu'à maintenant sous le manteau de certaines personne qui étudie Louis Massignon, mais n'a jamais été publié. Je ne le publie pas non plus, mais je l'exploite abondamment, comme d'autres personnes avant moi, mais en le citant à chaque fois. Et évidemment, on découvre aussi une intimité vraiment importante, y compris dans sa mystique aussi, dans son rapport au monde, son rapport à l'espace, son rapport aux autres, son rapport aux musulmans. Et donc c'est tout à fait touchant aussi de saisir la fragilité humaine, hein, de l'homme.
Alors dans cette partie spirituelle, l'homme de foi, Manuel Pénicaud, vous évoquez en introduction des références textuelles. Je pense au passage lié à Abraham avec la réception sous la chaînée de Mambré et une résonance dans le Coran aussi. Cette rencontre, donc, c'est ce qu'on appelait l'hospitalité abrahamique. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Effectivement, Louis Massignon, d'ailleurs, je partirai de l'image que Massignon avait sur sa cheminée. Donc, c'est une petite icône représentant cette scène d'Abraham et Sarah recevant trois étrangers, trois visiteurs qu'ils accueillent et qu'ils nourrissent au nom de ce devoir d'hospitalité qui, pour Massignon, est la valeur cardinale, en fait, déjà de sa vie, mais même pour lui de l'humanité. Et donc, il développe une mystique de l'hospitalité et aussi une politique de l'hospitalité. Donc, il y a un versant politique aussi là-dedans. Mais sur le plan spirituel et mystique, toute sa spiritualité, justement, est basée sur ce mythe, en fait, ou ce récit fondateur qui est dans Genèse 18, dans la Genèse 18 le chapitre 18 de la Genèse dans la Bible, bien sûr, mais aussi dans plusieurs passages du Coran. Et c'est vraiment comment cet accueil d'inconnus, d'étrangers, est porteur et fait société, puisqu'en fait, ce sont ces visiteurs, notamment l'un des anges, considérés comme des anges, qui annoncent à Sarah qu'elle va enfanter Isaac. Donc en fait, cette hospitalité est fondatrice de la généalogie qui va suivre. Et donc Massignon était vraiment habité par ce thème de l'hospitalité, et il visitait justement les sites concernés, abrahamiques, en Terre Sainte, à chaque fois qu'il en avait l'occasion, lors de ses missions aussi, lors de ses voyages diplomatiques, militaires, scientifiques.
Il a toujours été à l'écoute, en fait, de ces lieux de rencontre, de cette possibilité de dialogue, encore une fois basée sur l'écoute de l'autre.
L'écoute et la rencontre et certainement le respect, c'est-à-dire que le respect de l'autre religieux, il part du principe, hein, qui est le sien, que les musulmans étaient exclus de l'alliance divine, scellée entre Abraham et Dieu à travers Isaac. Ismaël, le premier enfant ayant été exclu, est parti exclu au désert avec sa mère Agar. Et tout le projet massignonien a consisté à ramener la branche d'Ismaël dans l'alliance divine. Et là, c'est ça que Massignon appelle aussi l'abrahamisme, c'est de rassembler tous les enfants d'Abraham dispersés.
Alors il y a un autre concept, Manuel Pénicaud, que vous développez, c'est celui de la substitution. Alors ça me permet de faire un lien avec quelqu'un que vous citez, d'ailleurs vous lui dédiez cet ouvrage, qui est le père d'Aulio, Paolo d'Aulio, voilà ce jésuite qui a été enlevé, certainement assassiné en Syrie dès les premiers mois de la guerre par l'État islamique. Substitution, de quoi s'agit-il exactement ? Comment y voir aussi un geste politique peut-être ?
Alors c'est un concept riche et complexe. Massignon, comme je l'ai dit tout à l'heure, hérite par Joris Karl Huysmans de cette idée de la substitution mystique, c'est-à-dire l'on peut souffrir on doit même souffrir à la place de l'autre. Et donc en l'occurrence de l'autre quel qu'il soit. Et Massignon petit à petit va s'orienter vers la prière pour les musulmans en tant qu'exclu hein, dans son système de pensée. Donc c'est un concept au départ qui lui vient de Huysmans et que lui va s'approprier et développer, et il va en faire un lien avec un mot arabe qui est le badaliya, que lui se traduit justement par substitution. Il va, en 1934 d'ailleurs, fonder un groupe de prière, un peu à l'image de ce que Foucault avait fait avec l'union de prière. Et Massignon fonde la badaliya, donc c'est un groupe de personnes, de chrétiens d'Orient justement d'ailleurs au départ, destiné à la prière pour le salut des musulmans. Donc c'est quelque chose de tout à fait novateur. Et c'est donc en 1934 qu'il fait ce vœu de Badaliya avec Marie Cahil dans une église de Damiet en Égypte. Église dans laquelle d'ailleurs le Saint François se serait recueilli avant de rencontrer le sultan en 1219.
Saint François d'Assise,
oui. Et donc cette Badaliya est un groupe au départ informel, très bizarre, hein, quelque part par bien des aspects. Et c'est d'ailleurs dès le mois de juillet 1934 qu'il va à Rome et présente ce projet, ce texte, au pape, voilà, au pape Pie XI. Et ce dernier va, disons, bénir cette œuvre, cette nouvelle œuvre, et va qualifier Massignon en lui disant « Vous êtes devenu musulman », et d'où l'expression de « catholique musulman » qui est le sous-titre de cet ouvrage.
On sent beaucoup d'ironie quand même dans les propos du pape à l'époque, ou pas ?
Alors à la fois, il y a une étrangeté, disons, hein, ou quelque chose, une ambiguïté aussi que l'expression propose, évidemment. Une ironie, je ne sais pas. En tout cas, il y a une compréhension, puisqu'il y a une bénédiction, et en même temps, il y a une distance, évidemment. Une autre formule qui m'est chère, qui a été dite, disons, en 1962 à sa mort, c'était le plus grand musulman parmi les chrétiens et le plus grand chrétien parmi les musulmans, pour qualifier Massignon. Ce qui montre aussi qu'il brouille les frontières, il brouille les catégories. Il est évidemment catholique, chrétien. D'ailleurs, beaucoup de gens pensent qu'il s'est converti à l'islam, ce qui est faux. Mais il s'est converti dans le miroir de l'islam. Et il s'est donné, quelque part, il a consacré sa vie à l'étude, mais aussi à l'amour de l'islam. D'où le lien avec Paolo Dall'Oglio dont vous parlez. Ce jésuite italien qui n'a pas connu Massignon, mais qui est l'un de ses disciples spirituels et qui s'est proposé comme un continuateur de la Badaliya, de cette prière pour les musulmans, et pour cet amour de l'islam, donc cette islamophilie. Et l'un des ouvrages majeurs de Paolo Dall'Oglio est « Amoureux de l'islam, croyant en Jésus ». On voit encore une fois des formules de l'entre-deux, de l'ambiguïté aussi structurelle de ces sujets.
Alors ce qui est raison pour les mystiques serait folie peut-être pour les hommes. Comment expliquez-vous cette interprétation de la substitution ? Donc on peut expliquer peut-être votre interprétation en tout cas du geste du père Paolo.
Avant de parler de Paolo, peut-être que pour Massignon, je crois que ce que le livre permet de comprendre, c'est vraiment comment son histoire personnelle et sa vie personnelle l'amène à constituer une expérience, une expérimentation inattendue d'un groupe destiné à la prière des autres religieux. Ça, c'est vraiment une innovation, je crois, et qui était d'ailleurs assez avant-gardiste, en tout cas pas du tout attendue, et donc peu compréhensible du commun des croyants, j'allais dire. D'où le fait que ce groupe de prière était secret. Disons qu'il y avait des réunions, d'ailleurs à Paris, ici même, il y avait un groupe à Paris qui se rassemblait à Saint-Sulpice d'ailleurs. Beaucoup de grands dignitaires de l'Église en faisaient partie. Paul VI, avant d'être pape, a été membre de la Badaliya d'ailleurs à Rome. Mais tout cela était vraiment dans une forme de groupe qui ne pouvait pas être connu du grand public. Ça n'a pas empêché d'avoir des influences sur le Concile Vatican II, par exemple, notamment sur les positions de l'Église sur les religions non chrétiennes. Donc les gens de la Badaliya ont eu une influence à ce niveau-là. Quant à Dall'Oglio, on peut, je crois, lire aussi son acte hein, d'aller essayer de libérer des otages à Raqqa, donc en Syrie, au cœur du chaudron là, du pseudo-État islamique, en juillet 2013 comme un acte de Badalia. Il a voulu libérer des otages, chrétiens et musulmans, en s'offrant lui-même en otage pour prendre leur place. Et c'est vraiment un acte de Badalia, un acte de substitution à la façon de Massignon, en fait. Donc Paolo Dall'Oglio n'était pas insensé en tentant cet acte-là, il s'est offert en otage, volontaire. Et c'est d'ailleurs des mots qui sont présents dans les statuts de la Badalia, de s'offrir en otage volontaire. Et d'ailleurs, il y a là une mise en abîme par rapport à la notion d'hospitalité. C'est quand l'hôte devient otage. Donc c'est vraiment le climax de l'hospitalité.
Nous étions ce matin en compagnie de Manoël Pénicaud, dont je rappelle le titre de l'ouvrage « Louis Massignon, le catholique musulman », une biographie qui vient de sortir aux éditions Bayard. Manoël, merci beaucoup.
Merci beaucoup, oui, à vous et à toute l'équipe.
Je remercie Dany Journeau, Stéphane Touvenin, Claire Poinsignon pour la réalisation et la technique de cette émission. Nous retrouvons sur France Culture le service protestant. Bon dimanche.